Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, bienvenue à bord du cargo de Radio Caroline. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous un personnage étonnant, singulier, original et innovant, mais aussi, il faut bien le dire, oublié, qui dans les années 80 a aussi incarné à la radio puis à la télévision française les nouvelles tendances musicales, celles du rock, de la new wave et même d'une nouvelle chanson française plutôt pop. Je dis aussi car... Bien sûr, à la télé, chez nos voisins dans les années 80, il y a Les Enfants du Rock, une émission qui comprend plusieurs modules, dont Sex Machine, animée par Philippe Manœuvre et Jean-Pierre Dionnet.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Incroyable victoire que celle d'Antenne 2 et au-delà de notre chaîne favorite, victoire des Enfants du Rock.
Rockline, présenté par Bernard Lenoir.
Bonsoir, au programme des Enfants du Rock ce soir, un nouveau numéro de Rockline. Bernard Lenoir et Hugo Castavetti sont allés à Manchester pour y rencontrer la blonde Carmel.
Ouba Ouba, proposé par Antoine Decaune.
C'est comme ça que tu parles à ta mère ? Petit merdeux, bah, la semaine d'après aussi c'est supprimé, tiens.
Ou encore les rockumentaires de Childéric Muller. Tout ça, ce sera sur Antenne 2, ancêtre de France 2, chaque semaine, après 22h, dès janvier 1982. Mais au printemps de cette même année 1982, naîtra sur TF1, le samedi après-midi, Mégahertz, une émission présentée par un dandy rock au parcours pas banal et toujours à l'affût des nouvelles tendances, je le disais, des changements de l'air du temps, Alain Manval.
Vous avez le rythme ? Est-ce que vous sentez le rythme ? We got the beat ! Alors là, ça s'adresse à vous tous, vous qui regardez Mégahertz. Je suis sûr que vous êtes tous jeunes et hip.
Et si son nom ne vous dit rien, sachez que se balader avec Manval dans les années 70-80, mais aussi vous l'entendrez dans les années 2000 et 2010, c'est plonger dans la punkitude londonienne de 1977, croiser Bachung et son fils, accompagner un attaché de presse à la recherche de coke et de filles pour des rockstars, vivre la création de nouvelles chaînes télé, subir les conséquences d'une marée noire, se faire virer plus d'une fois et même tenir la laisse du chien de Jane Birkin. Bref, Manval, croyez-moi, ça vaut le voyage.
Bonjour, vous donne ça. Bonjour, non, good afternoon. Mégahertz, votre rendez-vous hebdomadaire avec la musique. Les équipes de TF1 dans le monde entier pour nous ramener des images de rock, de jazz, de hard rock, de salsa, de reggae, de cold wave, de new wave et pourquoi pas du tango argentin. Mais nous sommes en France et en France, il y a des milliers de musiciens. Et Mégahertz sera là pour vous les présenter parce que ces milliers de musiciens, ils sont dans la merde. Pour eux, c'est la galère. Alors Mégahertz sera là pour essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile pour eux d'avoir des endroits pour répéter. On vous présentera des organisateurs véreux qui les exploitent. On vous présentera les bons aussi. Et puis, je voulais vous dire quelque chose qui pour moi paraît très important. Le rock'n'roll, cette musique de jeunes, ben, ce n'est pas qu'une musique violente et dure. C'est aussi une histoire d'amour.
Voilà, le style Alain Manval dans Mégahertz sur TF1 en 1982, c'était ça. Mais Manval, ce sera bien d'autres choses encore, on va y revenir. Mais commençons par le commencement au sujet de ce personnage résolument à part dans l'univers médiatique. C'est à Saint-Étienne qu'il naît le 23 janvier 1953, une ville où, ado, il fait un peu de théâtre amateur, avant, à 17 ans, de la quitter pour Paris avec l'espoir d'y devenir acteur. Entre divers petits boulots, il enquille les seconds rôles sur les planches du petit théâtre Mouffetard, 250 places à tout casser, puis fait une rencontre déterminante qui va lui permettre de devenir attaché de presse dans le milieu de la musique et du disque. Et notamment à Londres, en 1977, en pleine période punk, où il bosse pour le label Track Records, qui distribue en Grande-Bretagne les Heartbreakers. Et pour rappel, les Heartbreakers, c'est le groupe punk américain de Johnny Thunder, ex-New York Dolls, qui, à l'issue d'une tournée au Royaume-Uni avec les Sex Pistols, The Clash et The Damned, s'ancrera pendant un an dans la capitale anglaise, où sa popularité est nettement plus saillante qu'aux États-Unis. Et les Heartbreakers, en live, à Londres, en 1977, avec Alain Manval en backstage. Pour s'occuper des relations de presse du groupe, le jeune Manval, 24 ans, bosse dans un bureau qui donne sur Carnaby Street, à l'épicentre donc de la punkitude. Manval, dont le petit ami à l'époque n'est autre que le réalisateur Derek Charman, à qui un épisode de Radio Caroline fut dédié, lequel prépare à ce moment-là Jubilee, film résolument anti-establishment et anti-monarchique, en un temps où la reine Elisabeth II fête le 25e anniversaire de son accession au trône. Et le Jubilee de Derek Jarman, ça donne ça.
You wanna know my story, babe? It's easy. This is the generation who grew up and forgot to lead their lives. They were so busy watching my endless movies.
À son retour en France en 1978, Alain Manval appelle une connaissance qui bosse pour Pathé Marconi, EMI France, qu'il avait guidé dans les nuits londoniennes quelques mois plus tôt. Et voilà, notre ami, désormais attaché de presse à Paris cette fois, est chargé de la promotion des Pink Floyd, de Téléphone, de Iggy Pop, de Yandere ou encore de Jacques Higelin. Cela dit, comme il le confiera bien plus tard à Thierry Ardisson...
Enfin, quand on est attaché de presse, on est leur femme de ménage.
Hein. Oui.
Je veux dire, ça n'a rien de glorifique. Ouais. On ne fait pas partie de l'artistique. Ouais. On est là pour leur trouver la gonzesse qu'ils veulent, la coke qu'ils veulent. Il ne faut pas se leurrer.
Et hein. Vous arriviez de faire ça?
Bah, ça fait partie du job.
Ah oui.
J'ai des beaux souvenirs avec Iggy Pop pour faire Paris, pour lui trouver la coke, ça c'est sûr. Oui. Ouais.
Pour les besoins de la promo toujours, Manval se déguisera en vampire pour la première télé du disque Champagne de Jacques Higelin dans l'émission Le Grand Échiquier de Jacques Chancel. Higelin qu'avant cela, il avait été chargé par sa maison de disque de presser, pressuriser au studio du Château d'Hérouville afin qu'enfin ses interminables enregistrements se terminent. Début 1978, outre la musique, c'est la radio qui excite désormais Alain Manval. Et il va la pratiquer sur les grandes ondes d'Europe 1 où, depuis son studio bunker, il anime Pogo, qui est alors la seule émission consacrée au punk diffusée en France sur une grande radio commerciale. Bon, entre 1h et 2h du matin, certes, mais l'occasion d'y faire découvrir les derniers singles qui enflamment Londres et Manchester, New York, Amsterdam, Paris, Zurich ou Berlin. En mars 1978, alors qu'Alain Manval passe un week-end dans l'île de Bréa, dans les Côtes d'Armor, il est, malgré lui, témoin d'une catastrophe. La terrible marée noire causée par le naufrage de l'Amoco Cadiz au large des côtes bretonnes et qui les polluera pendant très longtemps. Le lundi, de retour au micro, furieux, il invite ses auditeurs à boycotter l'essence Shell, à qui le pétrole de l'Amoco Cadiz était destiné. Sauf que Shell est aussi le plus gros annonceur d'Europe 1 et partenaire de la station, comme le rappellent les autocollants qui décorent les milliers de pare-brises avec les photos des animatrices et des présentateurs de la radio et le logo de la compagnie pétrolière.
Le directeur des programmes de l'époque, qui est décédé, René Kletman, m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, Alain, il y a trois choses qu'il ne faut pas faire en radio. Mmh. C'est pousser les gens au suicide, à l'homicide et au boycott.
Manval est viré sur le champ et interdit d'antenne pendant 3 ans. Bien que l'émission soit tardive, cette éviction fait grand bruit dans le milieu médiatique et même Le Monde, encore vénérable, se fend d'un article, quelque peu ironique évidemment. On cherche à Europe 1 comment occuper l'antenne de 1h à 2h du matin, écrit le journaliste. Une émission de rock, d'accord, mais une émission qui ne fait pas de bruit. Pogo, par exemple, c'était beaucoup trop bruyant. On n'est pas contre le rock à Europe 1. C'est une musique jeune, dynamique, il faut bien que jeunesse se passe. D'ailleurs, à 1h du matin, ça n'engage à rien. Les auditeurs qui ont sagement assimilé la musique de grande consommation, noyée entre les jingles publicitaires de la journée, ne sont plus à l'écoute. Ils dorment, du moins, le suppose-t-on. Tout de même, Alain Manval et Marc Garcia, qui ont eu l'idée de Pogo et l'ont réalisé durant 3 mois, manquer de discipline. Aussi minime soit l'écoute, on ne dit pas à l'antenne boycotter Shell, surtout si la Shell se trouve être l'un des plus gros annonceurs de la station. La musique c'est bien, la publicité c'est mieux, et lorsque Publicis pèse 25 millions de francs, français de l'époque, sur le chiffre d'affaires, il est préférable d'écarter un Manval qui pourrait bien prétendre boycotter un autre annonceur. Pourtant, Pogo faisait l'objet d'un courrier substantiel, 200 lettres par jour, la moyenne d'une émission tournant autour de 100. Dixit, un article du Monde de mars 1978. Heureusement, après avoir épongé sa frustration sur quelques radios libres Entre 1979 et 1982, Alain Manval sera rappelé en Europe 1 par Philippe Gildas, devenu entre-temps patron des programmes. Il y animera le week-end Méga Fun, puis le Bon Esprit, les après-midi ou en soirée, selon les saisons. C'était un peu l'auberge espagnole, racontera-t-il, ça entrait, ça sortait, Boy George, Gainsbourg, Nina Hagen, The Clash, John Travolta et tant d'autres. Et il y avait toujours à boire grâce à mon super assistant Yaya qui allait vider les sous-sols d'alcool d'Europe 1.
Radio Caroline avec Olivier Monsens.
Au printemps 1982, c'est On y vient à la télé sur TF1, encore public, qu'Alain Manval va faire vivre le rock, la new wave, le reggae et tant d'autres courants musicaux qui soufflent dans les enceintes du monde. Et ça s'appelle Mégahertz. Compte rendu d'un journaliste après quelques émissions. Dans un décor à mi-chemin entre un salon contemporain et un bar de quartier saturé de néons multicolores, il bouscule les habitudes du samedi après-midi. Exit, Guy Lux et ses variétés populaires. On retrouve le style unique de Manval et sa voix synthétique magnifiée par la réalisation novatrice. Maquillé comme un camion, maniéré plus que de raison, l'animateur parle branché et préfère recevoir les artistes en direct plutôt que de diffuser leurs clips. Ancien attaché de presse de téléphone Iggy Pop, Pink Floyd et bien d'autres, il active ses réseaux pour obtenir moult exclusivité. La France découvre des artistes venus d'outre-Atlantique, Africa Bambaataa, Devo, The Go-Go's, Ming DeVille et d'outre-Manche, The Bell Stars, Hackett 100, Killing Joke, sans oublier les Français, Alain Bashung et Ellie et Jacquenot, Brigitte Fontaine, Casse Product, Star Shooter, mais aussi des Belges, comme l'incroyable Henriette Kouloufra. Sans oublier, toujours dans Mégahertz, des Allemands tels Kraftwerk ou Nina Hagen. Mais en 1982, toujours dans Mégahertz...
Marie-France, elle représente le sexe, la féminité. Alors tout de suite, on va l'entendre. Je ne me quitterai jamais, elle est là avec nous. Marie-France, en ce moment, elle donne un spectacle tous les soirs.
Oui, à Villecresnes, au Rocambole, c'est près de Boissy-Saint-Léger.
Marie-France, je ne me quitterai jamais.
Je ne me quitterai jamais.
Tiens, cette chanson, cette musique, cette mélodie, ça ne vous rappelle rien ? Bah si, 4 ans plus tard. Lio, je casse tout ce que je touche. Musique de Jehalansky dans les deux cas et parole dans les deux cas de Jacques Duval. Pour Alain Manval, le bonheur de faire Mégahertz...
C'est d'être présent avec des petites équipes réduites, parce que je savais déjà fonctionner à l'économie, ouais. Et pouvoir filmer Siouxsie and the Banshees à Amsterdam, ouais. Filmer DAF à Berlin, avoir une équipe au Japon qui filmait le rock japonais, c'était inattendu. Et c'est d'être présent sur tout le terrain, et d'avoir des petits espions qui soient là, et puis ramener le contenu.
Ouais. Et puis... À titre personnel, il confiera.
Ça a été un bonheur pour mon père, qui était quelqu'un avec qui j'ai jamais communiqué. Mmh. Parce qu'au moins, il avait quelque chose à dire à ses potes de jeu de boules. Et il était flatté que ce soit son fils dans le progrès lyonnais, stéphanois. Et c'est la première fois que j'ai dit, tiens, mon père fait un peu attention à moi. Parce que j'ai été un peu le chaton noir de la famille. Ah ouais. Oui, l'électron libre.
Mais l'émission fera long feu. Décidément, lancé en mars 1982, Mégahertz sera supprimé une dizaine de mois plus tard, en janvier 1983. Exit TF1 donc en 1983 pour Alain Manval, qui, parallèlement à ses émissions radio du week-end qui se poursuivent sur Europe 1, retrouvera le petit écran en 1986 sur TV6. Nouvelle chaîne de télévision française privée et gratuite, lancée le 1er mars 86, quelques jours après la 5, mais dédiée, elle, aux jeunes et à la musique, dont la presse saluera, lis-je, le ton nouveau conforme à un esprit de libre antenne en même temps que l'arrivée de la télévision musicale en France. Chaîne où débutera aussi un certain Jean-Luc Delarue et sur laquelle Alain Manval présentera un show musical hebdomadaire en public nommé Tam Tam.
On se dit bonjour, salut les monstres. 18h, c'est l'heure de... Aujourd'hui, invité Tam Tam, Diane Dufresne. Mes Lyonnais préférés, Clint Boris, Carniagara, Bronco Junior, l'affaire Louise Trio avec leur nouveau 45 tours. Ronald Rubinel, bonjour les Antilles, Mille Mougenot, tu peux me mettre de la musique en fond sonore. Murray Head, Chêne, Noir Désir, Nilda Fernandez...
Mais 12 12 mois plus tard, TV6 devient la première chaîne nationale de l'histoire de la télévision française à être supprimée. Et ce, pour des motifs politiques, les élections législatives du printemps 86 ayant été perdues par la majorité de gauche et gagnées par l'opposition de droite de Jacques Chirac, qui a ses petits actionnaires préférés. Le siège de TV6 est pris d'assaut par les jeunes téléspectateurs fans le 28 février, peut-on lire. Ils déferlent sur les Champs-Élysées et improvisent une manifestation avec des artistes parmi lesquels Francis Lalanne, Marc Lavoine, Mylène Farmer, Patrick Bruel. L'animateur Childéric Muller, vedette de la chaîne, doit monter dans un arbre avec un porte-voix pour disperser la foule en fin de manifestation, poursuit le compte-rendu. Le même soir, TV6 diffuse sa dernière émission depuis le plateau de l'émission Tam Tam à Saint-Cloud.
J'aimerais que tout le monde vienne. J'aimerais que tout le monde vienne. Childéric,
Francis,
Olivier
merci
Laurent-Jean,
d'être venu. On est tous là, tous ceux qui ont fait un an de TV6 avec vous. Parce que TV6, c'est vous, mais c'est aussi Olivier. Alain qui vous a présenté toute la soirée et tous
Dominique
les autres.
Dominique du Forest, Mademoiselle C, Coquille, De Rieux, Jacques Collin. Ouais, Collin.
Bonsoir à tous.
Isabelle Duhamel, Lortran, Charlotte. Ouais, Charlotte Valandré. Charlotte est là. Avant de vous dire, Wallo, je voudrais remercier Arlette et Alfred d'avoir mis au monde Annie M. Salem, la productrice de Tam Tam. Sans Arlette, Annie n'aurait jamais
bravo
été parmi nous. Merci Arlette.
Quelques heures après la disparition définitive de TV6, le dimanche 1er mars 1987, c'est Métropole 6, alias M6, qui diffusera ses premières émissions en direct sur le même canal. Pour Alain Manval, à la fin des années 80, plus de télé en France, mais plus non plus de radio. Il racontera « J'ai quitté Europe 1 un dimanche où Wim Wenders était mon invité. On était arrivé à un stade où, avec la pub, le tiercé, la Formule 1 en direct, on n'avait pas pu se parler alors qu'il m'avait ramené plein de musique formidable à diffuser. Alors je suis allé voir Franck Thénault, mon président chéri et préféré, et je lui ai dit que je partais créer une chaîne de télé au Maroc, ce qu'on m'avait proposé. Lui avait démarré avec Daniel Philippaki à Radio Tanger, alors ça lui a mis de l'exotisme dans les yeux, et il m'a dit de me casser. Je lui ai répondu que ça faisait longtemps que j'étais là et que j'aimerais avoir des indemnités. Comme il savait que les énarques au-dessus de lui ne donneraient rien, il a fait un geste grandiose et m'a filé de sa poche deux sublimes toiles d'art contemporains. Manval partira donc au Maroc lancer 2M, la première chaîne privée et payante de ce pays, qui diffusera, comme Canal+, des émissions cryptées, mais aussi deux plages en clair. Au Maroc, je devais former des gens à faire de la télévision dans tous les sens du terme. Des monteurs aux animateurs à qui je faisais faire des castings dès que je croisais dans la rue des visages qui avaient du charisme, des tronches. La Madame Cinéma, qui est devenue une star au Maroc, Bouchra Alami, je l'ai rencontrée en visitant la maison de son père que je voulais louer. Le lendemain, elle faisait des essais et le surlendemain, elle était embauchée. Et après, je l'ai emmenée au Festival de Cannes. J'ai permis aux gamins du Maroc, et cela m'a beaucoup plu, d'être un peu le Maalem, le patron, celui qui sait en arabe. Ce n'était pas grand-chose, mais je les ouvrais à différentes cultures. J'avais un contrat de 3 ans avec 2M, à l'issue duquel on m'a proposé la direction des programmes d'Arte, qui est une chose qui ne se refuse pas, surtout lorsque c'est le président François Mitterrand qui le souhaite. J'avais de toute façon décidé que je ne retravaillerais plus jamais de ma vie pour un média commercial. Manval gagnera donc Strasbourg, où il sera le directeur des programmes de la chaîne franco-allemande Arte de 1993 à 1995. Après ces 2 années passées à la direction des programmes d'Arte, Alain Manval retournera vivre au Maroc. Et puis, bien plus tard, en mars 2009, pour se rapprocher de sa mère souffrante, il rentrera à Saint-Étienne, sa ville natale. L'été de la même année, France Inter lui propose de reprendre l'antenne, ce qui lui permet de ressusciter chaque samedi d'été le bon esprit, titre d'une émission qu'il avait déjà présentée sur Europe 1, on s'en rappelle. Un titre qui, d'ailleurs, lui avait été inspiré par Bachung, car quand en studio, ses musiciens trouvaient une belle connivence, Bachung disait toujours « Bon esprit les gars, bon esprit !» Je reprends conscience de mon corps, j'ai arrêté de fumer et de boire pour France Inter, raconte Alain Manval à l'époque à Télérama. Je ne suis plus une fashion victime habillée par Jean-Paul Gaultier avec une tresse bleue. J'engrange des chansons, j'éjacule des mots pour cracher mes mots. J'essaie surtout de ne jamais rater les adieux. Il faut dire qu'il en aura fait des adieux, nombre de ses amis ayant été, au fil des décennies, emportés par le sida. Une maladie dont il souffre lui-même depuis bien longtemps, mais à laquelle il résiste et à laquelle il consacrera en 2013 un documentaire titré « Vivre en positif ». Sa collaboration avec France Inter reprendra de septembre 2014 à octobre 2015 avec l'album de Minuit qu'il produit et anime chaque samedi et dimanche soir à minuit. Le soir, sur les ondes avec Alain Manneval en 2015, peu avant son retrait du micro pour des raisons de santé, loin de ses débuts punk et hurlants, bah ça pouvait donner ça.
Are we on radio?
Est-ce qu'on est dans la radio là? Ah!
Are we on the air?
Est-ce qu'on est sur l'antenne?
Bonjour, salam, shalom, l'album de Minuit sur l'ami Shumba. Autour du livre « Vertige de la vie » de Pierre Mikhaïlov et un des paroliers de Shumba, et pas des moindres. Moi, je le connais depuis tellement longtemps, je l'appelle Jeannot. Vous l'avez reconnu, vous, les fans de Bachung, Jean Fouque.
L'album de Minuit, Manneval.
Est-ce qu'on est sur l'antenne ?
Alors, je vais dire bonjour à mes invités, bonjour Jeannot. Alors, je t'appelle Jeannot parce que,
oui.
Parce que Bachung t'appelait Jeannot.
Exactement.
Qu'on a vécu des moments immémorables dans sa maison de la Selle Saint-Cloud.
Absolument.
On connaît Alain, toi et moi, depuis très très longtemps. Depuis combien d'années on peut le dire ? On le dit pas.
Si, on peut le dire.
Alors, vas-y.
Moi, depuis 1975.
Oui, moi, c'est un tout petit peu après.
Ouais.
Moi, c'est un petit, tout petit peu après. Moi, c'est plutôt années 80. C'est la période Richard Lenoir. Il y a eu la période terrible où Alain était trop dans la bière.
Oui, absolument.
J'aimais beaucoup sa première femme, Chantal. Ils avaient fait ensemble un film, un fils, Arthur, dont je me suis occupé beaucoup de fois dans ma vie. Il m'est arrivé d'avoir Arthur en pension, la peste. Parce que le fils Shungba, il avait de quoi tenir. Il tenait bien de son père. Et quand j'avais en pension le fils Bachung et la chienne de Jane Birkin, c'était pas mal aussi en même temps. Mais Jeannot Bergman, il a bossé avant toi avec Alain Bachung.
Oui, oui. En fait, on a commencé un peu tous les trois ensemble au moment du retour. J'ai dit du retour après ses premiers 45 tours d'Alain en 75. Il avait forgé une petite équipe autour de lui. Il y avait trois personnages. Il y avait Boris, il y avait Daniel Tardieu et moi-même.
Oui.
Sauf que moi, je manquais à ce moment-là sans doute de maturité, j'avais pas dû assez morfler dans la vie, et puis c'est allé plus du côté de Boris, et puis ensuite de Daniel aussi, de Daniel Tardieu. Il y a beaucoup de titres co-signés, et nous nos trouvailles, plus que nos retrouvailles, se sont faites plus tardivement avec Alain. Ouais.
Mes plus belles rencontres, parce qu'il n'y a pas plus beau que la voix, je les ai faites à la radio, dira Alain Manneval. Le 10 mars 2022, à 69 ans, Alain Manneval décède des suites d'un cancer des os. Son ami Philippe Danière, alias Phil Pressing, ex-batteur du groupe Star Shooter, dira de lui « On a oublié que Manneval a révolutionné la manière de présenter les émissions de radio et de télévision. Il y a eu un avant et un après lui. Nombre de gamins ont souhaité faire de la radio en imitant son phrasé et sa voix reconnaissable entre mille. C'était nouveau pour l'époque, provocateur, mais constructif. Aujourd'hui, les provocateurs sont des petits joueurs sans talent qui ramassent une fausse crotte de chien sur la scène des Césars. Manneval, lui, présentait son émission Mégahertz avec des cheveux bleus impeccablement coiffés, sorte de dandy futuriste, et un maquillage kabuki. Putain, ça avait de l'allure, c'était élégant, innovant. Et n'oublions pas que cela remonte à 1982. Avec son Stetson de cow-boy, lis-je encore, et cette fois dans Bretagne Nouvelle, avec ses vestes trop larges, son éternel pantalon de cuir, il demeurera jamais un homme élégant et courtois, paraissant toujours incroyablement vulnérable, sorte de chevalier sans armure qui s'est offert à la vie en luttant bec et ongles contre ce qu'est là d'inacceptable. Un éternel généreux, probe, courageux et fidèle. Alain n'est plus, vive Manneval! Sur sa pierre tombale, il aurait voulu voir inscrite sa devise qu'il a fait tatouer en berbère sur sa peau. Souviens-toi du futur. Notre voyage aux côtés d'Alain Manneval se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. Belle journée ou bonne nuit. Radio
Caroline. Pour des raisons de droit d'auteur, ce podcast ne contient que des extraits musicaux.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.